élevé, hein, donc c'est dire que il a une large avance sur les autres. Mais n'oublions pas que l'entraîneur, le sélectionneur chilien aussi a fait un titre de la Copa América, une sélection qui court derrière ce trophée depuis des années. Donc c'est dire aussi que là, mais là aussi, on parlera du titre. Et Guardiola, c'est vrai, il a créé pas nombre de surprises, hein, dans le championnat allemand, la Bundesliga, en battant des records sur records avec le Bayern de Munich. Mais en tout cas, à mon ami, Luis Enrique, l'entraîneur du FC Barcelone, qui a réalisé le triplé, parce que là, il faut le souligner, c'est un triplé inédit, Ligue des Champions et Coupe du Roi, et puis la Liga espagnole, c'est pas donné à n'importe qui.
Très bien, merci beaucoup. Évidemment, Élisée, on va prendre un autre appel. Cette fois-ci, on va à N'Djamena, c'est au Tchad. On va retrouver Christian, l'un des fidèles de VOA Afrique. Bonsoir, Christian.
Oui, bonsoir, Nicolas.
Alors, Christian, vous avez également réagi sur Facebook, hein, à cette nomination des trois joueurs pour le Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous pensez des trois finalistes?
Bon, sur les trois finalistes, je pense que Lionel Messi est bien parti parce qu'il a remporté. Il a tout remporté.
Oui, et est-ce que vous pensez que la présence de Neymar est justifiée?
Oui, la présence de Neymar est très bien justifiée parce que Neymar est en train d'évoluer maintenant.
Eh bien écoutez, on va suivre ça. Neymar qui était revenu après sa blessure, sa suspension, surtout avec le Brésil. Merci Christian de nous avoir appelé. Rendez-vous le 11 janvier prochain à Zurich pour découvrir qui est le Ballon d'Or cette année. Allez, on continue à parler du ballon rond. Cette fois-ci, on bat à Dakar, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, qui a débuté depuis quelques jours. Hier, lors de la première journée du groupe B à Mbour, le Nigeria a battu le Mali 3-2. Les jeunes maliens se sont battus jusqu'au bout, hein, Mdinsi. Ils ont été largement menés à la mi-temps, 3-0. Et les Aiglons, qui petit à petit ont effectué une remontée, mais pas suffisant, hein, ils s'inclinent 3-2. On va donner le nom des buteurs maliens, Adama Nian à la 54e et Abdoulaye Diarra qui ont inscrit les deux buts maliens. Le Nigeria, Amdinsi, le Nigeria qui est en tête de ce groupe B après le match nul un partout entre l'Égypte et l'Algérie.
Tout à fait, Nicolas Pignon. L'Égypte et l'Algérien sont neutralisés et le Nigeria a dompté très difficilement le Mali. Il faut le dire, les Nigériens qui ont entamé ce match tambour battant en menant par 3-0 lors de la première période. Mais les Maliens sont revenus en force en réduisant le score et en revenant jusqu'à 2-0. Donc finalement, ils se sont inclinés. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Ils sont tombés les armes à la main. Pour le moment, c'est le Nigeria qui est en tête de ce groupe. À deuxième place, on retrouve les deux équipes de l'Afrique du Nord, le Sud et l'Algérie et le Mali qui ferment la marche. Mais rien n'est encore vu parce que c'est une poule de feu au niveau de Mbour, qui est la deuxième ville quand même qui accueille cette Coupe d'Afrique. C'est la deuxième édition, je vous le rappelle très bien. Et les trois équipes se qualifient pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. Donc, c'est très important pour ces équipes de moins de 23 ans, Nicolas Pinot.
Merci beaucoup. Alors Amdine, on continue avec vous, hein, puisque l'autre poule, hein, dans le groupe A, qui est basé à Dakar, au stade de Léopold Sédar Senghor, mais on fait signe qu'on a un auditeur malien en ligne. Bonsoir, Kali Sako. Allez, bonsoir, est-ce que vous nous entendez à Bamako, Bakary?
Bonsoir.
Très très bien, bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette défaite des Aiglons du Mali, 3-2 en match d'ouverture contre le Nigeria?
Bon, je crois que c'est quand même triste. Quand les jeux du football n'étaient pas avec nous, sinon le Mali quand même devait ouvrir quand même le score en première position, parce que nous avons vu malheureusement notre tir, le tir de Adama Traoré qui a été quand même rejeté par la barre transversale. Ensuite, mener 3-0 et aussi de rentrer dans ce match, ça c'était quand même un peu difficile. Mais pour le moment, quand même, nous croisons quand même les doigts pour les Aigles, pour qu'ils viennent à bout quand même de l'Algérie et aussi de l'Algérie. Mais disons, vraiment, c'est pas facile, hein, c'est pas facile quand même. Qui connaît le football maghrébin, c'est quand même reconnu par leur vivacité et leur rapidité et leur technicité aussi. Donc nous allons dire à l'entraîneur quand même de faire beaucoup attention. Une défaite quand même, c'est un avertissement. Quand même, on doit faire tout quand même pour essayer de remporter les deux autres matchs qui sont à venir. Et aussi, si vous me permettez, je vais essayer de parler quand même le ballon d'or.
Allez-y.
Moi, je crois que actuellement, c'est quand même le triumvirat quand même du football mondial. Hein, Messi, Neymar et Cristiano. Quand même, le choix quand même du Neymar n'est pas fortuit. À mon avis, tous les Barça reposent quand même sur Neymar et non Messi. Hein, parce que c'est lui qui fait tout et que les autres marquent. Si quand même je vois quand même Neymar sur la sélection, moi je m'en félicite et je crois qu'il est quand même bien parti quand même pour être le challenger quand même de cette année. Je vous remercie.
Merci beaucoup Bakary Keïta qui était avec nous depuis Bamako, Mali. On repart sur Dakar, retrouver Amdine. Si Amdine, je le disais, deuxième journée demain dans la Poula basée à Dakar au stade Léopold Sédar Senghor. La Zambie contre l'Afrique du Sud et surtout le Sénégal contre la Tunisie. Les Lionceaux de la Teranga se sont imposés 3-1 contre l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture, c'était samedi. Ibrahim Keïta inscrit à doublé à la 16e et à la 20e minute. Sidi Sarr s'est aussi illustré à la 87e. De son côté, la Tunisie a remporté son match contre la Zambie 2-1. Avant de vous entendre, on va écouter Badr Assar, le sélectionneur adjoint sénégalais, qui parle de cette rencontre face à la Tunisie.
Nous avons remporté le premier match, comme la Tunisie qui a remporté aussi son premier match. Donc c'est un duel entre les deux équipes qui sont classées premières. Donc c'est un match hyper important qui peut ouvrir les portes de la demi-finale. Donc on va aborder ça avec le plus grand sérieux qu'il faut, parce qu'en face, on a un adversaire de taille, la Tunisie, une bonne équipe qu'il a montré l'autre jour. Et c'est une compétition où toutes les équipes ont le même niveau. Hein, parce qu'il n'y a pas de favori dans ce genre de compétition-là. C'est du 50-50. La Tunisie l'a montré l'autre jour. Elle a fait un très bon match. Donc, c'est du 50-50. L'objectif, comme on l'a dit au départ, c'est d'être sur le podium, de se qualifier pour les JO de Rio. Donc, depuis le départ, c'est ce qu'on s'est dit. Mais maintenant, on ne peut pas cracher sur la première ou la deuxième place. C'est important de participer encore pour une deuxième fois aux JO.
Voilà, évidemment, hein. Badr Assar, le sélectionneur adjoint sénégalais. Amdine, si vous êtes à Dakar, qu'est-ce que vous attendez de ce match, évidemment, après la belle victoire face à l'Afrique du Sud, une qualification d'ores et déjà pour les demi-finales ?
Oui. C'est le match de la confirmation pour ces deux équipes qui ont remporté quand même leur premier match. Tunisiens et Sénégalais tenteront demain de composer leur ticket.
Voilà, la ligne est difficile avec le Sénégal, Amdine Sy qu'on n'entend pas. On va prendre Élisée Oungpatine qui est à Boïkon au Bénin. Élisée, encore une fois, on le voit avec le Nigeria dans la poule B et actuellement dans cette poule A avec le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest qui devrait encore tirer son épingle du jeu dans cette compétition. Hein.
Oui, Nicolas, et contrairement à la saison précédente où le Gabon a remporté cette compétition, eh bien, cette année, on voit une très bonne sélection venant de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal qui évolue à la maison, il faut le souligner, et qui a fait une très belle entrée. Le Nigeria aussi qui a fait un match très fort devant le Mali, même si, en tout temps, les Maliens se sont battus de bout en bout. Il a fallu encaisser 3 buts avant de se réveiller. Mais pour la suite, on a vu une très bonne sélection malienne et qui, pour moi, devrait quand même se batailler pour pouvoir obtenir une place en demi-finale. Sinon, avec le reste, votre question reste quand même très sérieuse, il faut le dire, puisque là, le Sénégal et le Nigeria ont montré de très belles choses à l'entame de cette compétition. Il faut aussi préciser que seuls les demi-finalistes seront qualifiés pour les Jeux Olympiques qui auront lieu au Brésil. Donc là, ce sera une très belle bataille en vue pour cette place qualificative.
Merci beaucoup. On va retrouver Amdine Sy qui est avec nous de nouveau depuis Dakar. Amdine, on le disait, l'enjeu, la qualification dès ce deuxième match pour les demi-finales. Hein.
Oui. Parce que l'équipe qui va gagner quand même ce match va faire un très grand pas vers la qualification, parce qu'avec 6 points, l'équipe est presque sûre de jouer les demi-finales. Et si on sait que quand tu fais partie des 4 équipes qualifiées pour les demi-finales, tu as presque 90% de chance d'être sur le podium. Et si tu réussis sur le podium, tu te qualifies pour les Jeux Olympiques. Donc c'est très important. Et les deux entraîneurs sont très conscients de cela. C'est pourquoi Badr Assar a dit que c'est 50%, parce qu'on a vu l'équipe tunisienne qui a très bien joué face à la Zambie. On a vu l'équipe nationale du Sénégal qui a fait un très bon match face au Bafana Bafana. Donc c'est un match qui s'en occupe demain entre Lyon du Sénégal et aigle du Carthage de la Tunisie.
Et dernière question, Amdinsi, quel est l'engouement populaire? On sait que parfois les compétitions locales n'ont pas forcément des stades aussi pleins qu'elles le méritent. Est-ce qu'à Hambourg, est-ce qu'au stade Léopold Sédar Senghor, l'affluence est là?
Non, il faut dire que le stade Léopold Sédar Senghor n'a pas encore acheté plein, loin de là, parce que non seulement ce match, ce tournoi, cette deuxième édition de la Coupe d'Afrique intervient à un moment où ce n'est pas quand même le grand risque, parce qu'il y a le match de Touba que vous connaissez très bien. Tous les Dakarois sont en train de prendre quand même le chemin de Touba pour commémorer le départ en exil de Cyril Touba que vous connaissez très bien. Mais il y a également l'heure des rencontres, parce que le premier match se joue à 15h. Parce qu'au Sénégal, on a un problème de lumière. Donc, samedi, lors du match d'ouverture du Sénégal à 15h contre l'Afrique du Sud, il n'y avait pas beaucoup de monde. Par contre, à Hambourg, la ville où est basée la Poule B, là-bas, il y a affluence des grands jours. Parce que non seulement le stade Caroline Fay n'est pas tellement grand, le stade, c'est 10 000 places, mais au stade, le pôle Sénégal, c'est 60 000 places. Même l'équipe nationale a du mal à remplir ce grand stade. Mais on l'a vu lors de la CAN des U20 qui s'est déroulée au mois de mars au Sénégal. Au fil des matchs, il y aura de l'engouement, surtout que si l'équipe nationale obtient de bons résultats, Nicolas.
Merci beaucoup, Amédine Loa. On va partir évidemment du côté de Libreville, retrouver Jules Valentin Ngoué. Justement, hein, ces compétitions locales qui ont parfois du mal à faire le plein. Quel est votre sentiment là-dessus, à la fois sur l'affluence et sur le niveau de la compétition?
Oui, c'est que généralement, les meilleurs joueurs africains maintenant se trouvent à l'extérieur. Donc, le public vient pour voir les bons matchs, le public vient pour voir les bons gestes, et le plus souvent, s'il est dessus à un certain moment donné, il devient blasé. Donc, je crois que la grande explication, c'est celle-là. Comme en Amérique latine, comme en Afrique, les meilleurs joueurs sont en Europe, et c'est là le spectacle est devant la télévision.
Merci beaucoup. On rappelle, hein, demain, les matchs Tunisie-Sénégal et de l'autre côté, la Zambie contre l'Afrique du Sud. Allez, en bref, on continue sur VOA Afrique à parler de football. On va prendre la direction de la République démocratique du Congo, le derby de Lubumbashi. Hier, entre le tout-puissant Mazembe et Saint-Éloi Lupopo, ils ont partagé les points un but partout. Un match nul Thierry Kambundi qui permet aux Corbeaux de terminer les matchs allés en tête du championnat.
En tête surtout de leur zone, hein, car pour l'instant, le championnat, et je le disais il y a quelques semaines, est organisé par zone. Il y a la zone Est avec tous les clubs de Beni, de Goma, de Bukavu. Il y a la zone Centre-Sud avec les clubs des Kasaï et les clubs de Lubumbashi notamment. Et la zone Ouest avec les clubs de Kinshasa, du Congo central et de l'ex-Bandundu. Pour l'instant, Mazembe, grâce à ce match nul, termine en tête la phase allée de sa zone, la zone centre-sud. Surtout, ce match contre Lupopo qui a été très, très beau à voir, très équilibré, surtout hein, à l'ambiance du grand derby, Lushua plusieurs fois reporté, a permis à Mazembe d'affûter ses armes en prévision de la Coupe du Monde des clubs. Hein. C'est la prochaine grande échéance des Corbeaux de Lubumbashi. Mazembe qui a joué 3 matchs en une semaine contre Océan Pacifique, contre Chinkunku, contre Lupopo pour finir cette manche allée. Surtout, s'est servi surtout de ces matchs pour préparer la Coupe du Monde des clubs. C'était un très, très, très bon match. Et au final, les cheminots et les corbeaux, comme on les appelle, se sont neutralisés. Lupopo, hein, qui n'arrive toujours pas à battre Mazembe. Depuis 2008, Mazembe l'a toujours emporté. Les seules victoires de Lupopo sur Mazembe sont des matchs. Mais en tout cas, c'était un très 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 bon match entre deux formations qui vont jouer l'Afrique cette saison.
Merci beaucoup. Alors maintenant, la question pour tous nos auditeurs, pour les spécialistes évidemment. On va partir en Mauritanie. Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel en Mauritanie. C'était ce week-end, la finale de la Supercoupe. Tenez-vous bien messieurs, le chef de l'État, le président Mohamed Ould Abdelaziz, il a tout simplement demandé qu'on aille au pénalty alors qu'on était à la 63e minute de jeu, que les deux clubs étaient à un but partout entre le FC Tevgrad Zeina et l'association culturelle et sportive du Ksar. Un but partout. Eh bien, le président ne voulait pas attendre la fin du match. Il a demandé à ce qu'on tire les pénaltys directement et on a donc procédé à ces tirs au but. Je vais poser la question tout d'abord évidemment à Élisée Ongpatine. Élisée Ongpatine, scénario incroyable, hein?
Bien sûr, vous connaissez bien ce pays, la Mauritanie, où la dictature règne. Donc, le président ne voulant pas passer encore une heure de plus, parce que là, le match est à peine à 70 minutes de jeu. Donc là, il devra attendre encore 20 minutes et après, peut-être les prolongations. Donc, comme il a d'autres programmes, lui, et politiquement, il a vu, bon, voilà, il faut aller au tir au but. Mais ça a eu un impact négatif hein, sur le sportif là. C'est regrettable, mais la fédération ne devrait normalement essayer de discuter avec le président, mais ce serait impossible puisque là, c'est le chef de l'État, il a demandé quelque chose et il ne devrait même pas négocier puisque là, c'est la dictature et c'est ce qu'il a demandé qui a passé finalement. Donc c'est dommage hein, pour ce sport roi et ce sport tant aimé des Mauritaniens, un sport qui a commencé par émerveiller le public sportif mauritanien, mais dommage pour le football et en tout cas, heureusement pour ce président qui a voulu partir très tôt.
Alors Jules Valentin Gouet à Libreville, incroyable, hein, on est en 2015, incroyable le scénario à Nouakchott. Hein.
C'est à la limite, parce que là nous voyons un président qui ne respecte pas le football, qui ne respecte pas les joueurs, qui ne respecte personne, et on n'a pas étonné de voir que la Mauritanie a mis beaucoup de temps avant de se faire connaître réellement en Afrique. Et quand on voit comment ces joueurs mauritaniens se démènent pour faire, disons, passer leur pays d'un stade de football primaire à un stade supérieur, et donc c'est un manque de respect, un manque de reconnaissance. Mais que voulez-vous ? Certains n'ont pas fini de nous étonner.
Allez, Hamdine Sy au Sénégal, l'attitude du voisin mauritanien, qu'en pensez-vous ?
Non, c'est triste, Nicolas, parce que ce genre de truc ne doit jamais arriver dans un terrain de football. C'est vraiment triste. Et si on voit ce qui se passe au niveau du football mauritanien, ça reflète le comportement de leurs dirigeants. Je suis vraiment étonné d'entendre ça et je suis vraiment désolé. C'est un manque de respect de pouvoir, Nicolas Pinot.
Merci beaucoup. Et Thierry Kamboundi à Kinshasa, le point de vue congolais sur les péripéties du football en Mauritanie.
C'est incroyable, tout confrère, on dit l'essentiel, c'est incroyable. Hein, ce président, je suis désolé, avec tout le respect qu'on lui doit, sa place n'est pas dans un stade de football. Le football a ses règles auxquelles il doit se soumettre. C'est une insulte au football, comme l'a dit Gilles Valentin Gouet tout à l'heure. Il n'avait pas à suivre le match à la télé plutôt qu'à venir. Et en tant que président, imposer sa loi, alors que cette discipline est codifiée. Donc c'est vraiment un scénario indigne du 21e siècle dans lequel nous nous trouvons.
Eh oui, évidemment, hein, on y reviendra évidemment si on a plus de précisions. On va vous rappeler que dimanche, l'Étoile du Sahel a gagné sa deuxième coupe de la Confédération après celle remportée en 2006. Le club a battu les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Et puis, un mot, on parle d'athlétisme, de dopage. Le scandale se poursuit après la Russie, le Kenya, puisque trois hauts responsables de la Fédération Kenyane d'athlétisme ont été suspendus par la Fédération Internationale. Il s'agit du président Isaiah Kiplagat, de son vice-président David Okeyo et de Joseph Kinua, le trésorier de la fédération. Évidemment, le scandale de dopage se poursuit et fait des ravages. On en évidemment reparlera ici sur VOA Afrique et aussi sur notre site internet voaafrique.com. Voilà, ainsi s'achève ce sport à mort. On va remercier celui qui suit le championnat d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Hamdine Sy à Dakar. Bonsoir Hamdine.
Bonsoir Nicolas et merci et au revoir aux auditeurs de la VOA Afrique et à lundi prochain, Inch'Allah.
Inch'Allah. Un grand coucou également à Thierry Kamboundi à Kinshasa, notre partenaire Top Congo FM, la fréquence utile. Bonsoir Thierry.
Merci Nicolas, très heureux de vous écouter à nouveau et au revoir.
Et on va faire un coucou également à Boïkon au Bénin, Élisée Ongpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Et la sagesse africaine, le meilleur pour la fin, Jules Valentin Gouet à Libreville. Bonsoir Jules Valentin.
Bonsoir Nicolas et à très bientôt.
La mise en onde assurée par Georges-Léonard Sagnot, Nicolas Pinault à la présentation. Excellente soirée sur VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.